American Dream, c'est le titre de votre dernier CD, votre dernier album, Jean-François Verdier, avec donc votre orchestre, l'orchestre Victor Hugo. Au moment où l'Amérique fait peut-être un petit peu moins rêver nos bres d'entre nous, qu'est-ce que ce rêve américain-là?
Alors c'est un rêve américain qui nous replonge justement dans les années du rêve américain, parce que toutes les musiques sont début du siècle ou du moitié du siècle, du 20e siècle, pas de l'actualité. Et donc effectivement, c'était un moment où l'Amérique faisait peut-être plus rêver qu'actuellement. Il y avait un vent de liberté qui se développait là-bas, et puis il y avait des artistes qui se permettaient de créer des choses qui n'avaient pas été faites jusqu'à présent. Et notamment un duo de pianistes très célèbres à l'époque, c'était le duo Babine, qui avait commandé de nombreuses nouvelles œuvres pour eux-mêmes. Et puis, ils s'étaient souvent auto-composé les pièces, puisque Victor Babine était aussi compositeur. Et en fait, ils ont fait une très grande carrière aux États-Unis, en Amérique à ce moment-là, en tant que duo de pianistes et des gens qui ne jouaient qu'à deux. Et donc, on a actuellement, quelques années plus tard, aussi un duo de pianistes qui ne joue qu'à deux. Alors, ce ne sont pas des Américains, c'est une Russe et un Français, donc Ludmila Berlinskaya et Arthur Ancel, qui font donc un duo depuis une vingtaine d'années en ne jouant effectivement comme les Babines que à deux. Et donc, ils ont eu envie de nous proposer de reprendre ce répertoire-là, notamment des pièces qui étaient complètement inconnues, notamment une pièce magnifique de Dana Suess, alors ça, il paraît que ça se dit Sius. Qui est un concerto qui avait disparu de la circulation pendant longtemps, de manière assez inexplicable, parce qu'en fait, cette compositrice, c'est donc une femme américaine, était complètement contemporaine de Gershwin, un tout petit peu plus jeune que lui, et était, avant la Deuxième Guerre mondiale, considérée comme la Gershwin Girl, c'était son surnom, c'était une compositrice à grand succès, dont les partitions ont ensuite assez inexplicablement disparu après la Deuxième Guerre mondiale. Et ce concerto a été retrouvé beaucoup plus tard, il y a à peine quelques années, et a été joué une seule fois avant que nous le rejouions et nous l'enregistrions pour notre grand bonheur, parce que c'est une très belle pièce, une très belle réussite, qui justement a ce côté rêveur de l'Amérique nouvelle, avec un côté léger et optimiste, et en même temps de belles sonorités hollywoodiennes. C'est une belle redécouverte déjà pour ouvrir ce disque.
Dana, alors comment dites-vous son nom? SUE2SE, Jean-François Verdier, fraude américaine, c'est pas courant.
Il semble qu'on dit Sius.
Et là, c'est donc le scherzo du concerto qui ouvre justement ce disque. La littérature pour piano et orchestre est quasiment inépuisable, mais là, on est avec deux pianos, ça change les choses.
Oui, parce que alors la littérature pour deux pianos, elle est et orchestre, elle n'est pas si pléthorique que ça. Hein. On a évidemment bon, et Mozart, il y a Bruch, il y a Poulenc, il y a Britten. C'est évidemment beaucoup moins que les concertos pour piano seul. On a évidemment déjà un problème de cohérence entre les deux pianistes. C'est pour ça qu'il faut absolument jouer avec des gens qui sont habitués à jouer ensemble et qui désirent continuer à le faire pour qu'on n'ait pas de bataille de pianistes. C'est ce que fait ce duo-là. Ludmila et Arthur, qui jouent depuis très longtemps, de manière à ce que leur jeu à deux pianos puisse ressembler à un piano augmenté et pas à deux pianos qui se battent. Pour nous, c'est surtout la découverte de ces musiques-là qui nous a intéressés et le travail avec ces pianistes qui sont très investis et très, 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 vraiment de très, très fort niveau. Personne ne connaissait jusque-là ben, tellement les musiques d'Anna Suisse, ça c'est sûr, mais même Amy Beach n'est pas tellement. Jouer encore. Victor Babine, c'est pareil, c'était quelqu'un qui avait été un petit peu oublié pendant un temps. On espère que ce disque va réparer ces injustices parce que les musiques sont vraiment très très chouettes.
Jean-François Verdier, l'orchestre n'intervient pas dans cette suite, alors écrite par Amy Beach, donc deux pianos, les deux pianistes sont seuls, mais c'est déjà beaucoup. On est quand même souvent très proche d'une certaine forme de virtuosité, non? On leur demande beaucoup à ces deux pianistes.
Bien sûr, n'oubliez pas que l'Amérique à cette époque-là est une Amérique foisonnante et en même temps, c'est le culte de la vitesse là-bas. C'est l'Amérique qui est en avance sur tout le monde dans ces années-là. Donc la vitesse, évidemment, a un sens très très particulier pour ces musiques-là, ces musiciens-là. D'ailleurs, ça a continué puisque les compositeurs actuels, comme John Adams par exemple, ce qu'il y a eu après, comme Steve Reich, etc., ont beaucoup travaillé sur des petites cellules qui se répètent très vite, avec des changements qui donnent l'impression d'être dans une espèce de train qui ne s'arrête jamais. Et ça, c'est vraiment typique de la musique américaine. Donc ça, ce sont les prémices de cette idée-là dans cette Amérique d'il y a un siècle, en fait.
Au moment où on redécouvre pour beaucoup certaines compositrices européennes, le parcours d'Amy Beach, la vie d'Amy Beach est assez particulière aussi. Elle fait partie de ces femmes un peu éclipsées derrière Monsieur. Alors, même lorsque Monsieur ne fait pas de musique, puisque son époux était médecin.
C'est un grand dilemme.
C'est une vocation contrariée, non?
Oui, peut-être. On n'est pas dans la tête des gens. On ne sait jamais quelle est la part de compromis qu'ils ont choisi, en fait, hein. Ce qui est clair, c'est qu'il est difficile d'avoir, visiblement, c'est pas une de mes options, c'est juste une constatation, il est difficile d'avoir deux personnes de grande ambition dans le même couple. Et donc souvent, effectivement, il y en a un des deux, mais parfois c'était aussi inversement l'homme qui se désistait en fait pour aider. Le cas typique et très célèbre, c'est celui des Mahler, évidemment, Gustave et Alma, où Alma avait fini par dire il n'y a de place que pour un seul génie dans une famille. Alors est-ce qu'elle avait raison? Je ne sais pas, mais c'était pendant très longtemps le cas, et c'est longtemps le cas au détriment des femmes, notamment de Amy Beach, qui a disparu un peu de ses ambitions de compositrice, mais qui a quand même écrit beaucoup. Et on redécouvre maintenant, on refait justice à toutes ces personnes-là.
Et donc, on peut entendre une suite pour deux pianos, alors qui est assez classique. Enfin, je veux dire, on est en quatre mouvements.
Oui, ce ne sont pas forcément des gens qui voulaient révolutionner la musique, c'est juste des voix différentes qui avaient quelque chose à raconter, quelque chose à dire, en utilisant parfois des formes qui étaient déjà connues, déjà habituelles. Quelqu'un comme Mozart, par exemple, n'a pas inventé, en fait, de forme, n'a pas inventé de langage, n'a pas inventé d'accords nouveaux. Par contre, il a sublimé tout ce qui existait avant. On peut très bien bâtir sur des formes du passé, des choses complètement nouvelles, c'est le cas ici.
Jean-François Verdi, à l'occasion de l'enregistrement de ce CD, ça n'arrive pas souvent, je crois que c'est la première fois que vous le faites, du moins pour un enregistrement, vous partagez la direction de l'orchestre.
Absolument, avec mon ami et assistant Laurent Comte. C'est tout simplement parce qu'on avait partagé la direction de ce concert-là. Alors, moi, il m'arrive souvent de laisser ma baguette à d'autres chefs, ou chefs, évidemment, et parfois même au cours du même concert, ce qui est plus rare. On est même arrivé à avoir quatre chefs qui dirigeaient en même temps dans le même concert. Là, c'était le cas, puisqu'on avait partagé avec Laurent ce programme-là. Et on s'est dit au moment de l'enregistrer que le travail qui avait été fait, qui avait été bien fait, ne devait pas être perturbé par un nouveau changement de chef. Donc on a gardé cette configuration-là. C'est vrai que c'est complètement original parce que c'est très rare d'avoir la volonté de faire comme ça sans être obligé. Et en fait, nous, on a préféré ça, ce qui était notre souhait, voilà, notre vœu.
Revenons vers Victor Babin, je le fais à la française. On a déjà eu l'occasion d'en parler. Alors là, c'est une histoire de couple et ce sont des gens qui, au départ, ne sont pas aux États-Unis.
Oui, évidemment. L'Amérique est une terre, alors ça, il faut le prendre avec des pincettes actuellement, mais était au moins une grande terre d'immigration qui permettait aussi aux gens d'avoir une deuxième chance, une deuxième vie ou de construire autre chose. C'était le cas des Babines. Il fallait aussi, quand on arrivait quelque part, créer, apporter au nouveau pays, au nouveau continent. Et c'est aussi dans cet esprit qu'ils ont travaillé, notamment pour créer de nouvelles œuvres. Et ce continent, à ce moment-là, leur a ouvert les bras, puisqu'ils ont pu faire vraiment des tournées extrêmement importantes. Ça nous replonge dans toute une époque, avec évidemment l'écho qu'on en a aujourd'hui. Ça les remet en plus en perspective d'une manière différente, mais... C'était une période où on pouvait écrire beaucoup et inventer beaucoup dans ce pays-là.
Alors, l'époque, la période, ils arrivent aux États-Unis en 1937, je crois.
Oui, c'était la grande époque où on construisait beaucoup. Il fallait construire toutes les villes. On construisait New York, les années 20, les années 30, etc. C'était le moment où la grande crise était passée. Et on pensait commencer les années d'or. Ensuite, la Deuxième Guerre mondiale est arrivée. Et c'est notamment à cause de cette guerre, on pense que par exemple, Dana Suez a un peu disparu. Pour les Babines, ils ont pu avoir une carrière avant et après la guerre qui était très importante.
Jean-François Verdier, la musique s'écoute bien sûr, mais il y a toujours un livret évidemment associé au disque et c'est tant mieux. Vous y faites une large place, alors moi je serais presque tenté de dire à la technique, à l'analyse musicale.
Le livret, c'est toujours difficile à concevoir parce qu'en fait, dans le cas de pièces comme ça qui ne sont pas du tout connues, il faut quand même expliquer un peu le contexte, expliquer comment, pourquoi, parce qu'on sait que les gens qui vont acheter ce disque-là, l'écouter, auront envie de savoir d'où viennent ces compositeurs, ces compositrices, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on les redécouvre uniquement maintenant, comment c'est construit, etc. Évidemment, si on avait joué par exemple du Beethoven, peut-être que ce n'était pas la même chose à faire. Après, la question des disques physiques, c'est-à-dire un CD ou les vinyles, comme on les ressort maintenant, c'est que justement, on a des supports qui sont dans nos mains où on peut lire en même temps qu'on écoute ce qui s'est passé. Voilà. Donc, on tient à ce que ça reste quelque chose d'intéressant à lire, à suivre. Pour tout ce qui est plateforme, on écoute ça, évidemment, on a juste la musique, ce qui est déjà très bien. C'est mieux si on l'a pas en MP3 et si on l'a avec un vrai son, évidemment, parce que la musique est pas faite pour le MP3. Mais on n'a évidemment pas non plus les choses à lire, les informations supplémentaires et tout ça. C'est pour ça qu'on donne un soin aussi particulier au livret. En fonction de chaque disque, ce sont des paramètres différents de manière à ce que les gens intéressés puissent vraiment avoir quelque chose qui les nourrit.
Je comprends que vous n'êtes pas nécessairement favorable à l'abandon des supports physiques au profit de la musique en ligne, mais c'est un autre débat. Je reviens vers Dana Suess. C'est quelqu'un dont vous écrivez que, au fond, les orchestrations sont peu académiques et autodidactes.
Ce n'est pas une critique. Ravel était autodidacte. Ravel était le meilleur orchestrateur qu'on ait jamais eu. Quand on dit peu académique, ce n'est pas forcément une critique. Et autodidacte non plus. Moi-même, qui suis chef d'orchestre, si on regarde la carrière des grands chefs d'orchestre du passé, on peut considérer qu'ils ont tous été plus ou moins autodidactes. Et l'académisme, en fait, c'est ce dont on a besoin pour savoir composer. Mais ce n'est pas forcément une indication de la façon de ce qu'on va composer après. Donc, les gens qui se sont écartés de leur académisme, justement, ont pu proposer des choses qui étaient peut-être plus personnelles. Donc, ne prenez pas ça comme une critique à son égard, mais au contraire, une remarque concernant sa particularité et le fait que c'est justement intéressant de la découvrir.
En s'écartant parfois même du genre classique, je fais allusion à Bing Crosby.
Bien sûr, mais le sens classique aux États-Unis dans ces années-là était différent. C'est-à-dire que la musique classique américaine n'existait pas vraiment. Il fallait la créer. Et par exemple, Gershwin a été un des premiers à proposer un modèle qui intégrait des musiques qui, en Europe, n'existaient pas. Et donc, ces musiques classiques américaines, si on veut, était forcément teinté de jazz, fortement teinté de chansons, de Broadway, mais aussi de l'héritage des gospels, du blues, etc. Ce sont des musiques qui se sont créées par amalgame et agglomérat d'idées qui, à ce moment-là, bouillonnaient. Donc, c'est tout à fait normal que chez Dana Suess, elle ait inspiré d'autres gens. Elle a écrit aussi des chansons. Gershwin était quand même très connu avec son frère Ira pour écrire pour Broadway. Ce sont des compositeurs qui n'avaient pas de problème à écrire soit un concerto d'un côté et des chansons pour Broadway de l'autre côté. Donc, elle étant Gershwin Girl, c'était son surnom, donc elle avait évidemment repris un peu la même veine de réflexion.
On s'accorde quelques secondes, un tout petit coup d'oreille vers une archive, c'est justement Bing Crosby. All hums, spring is here now. All hums, skies are very clear now. All hums, love is near now for you and me. All hums, April showers. All hums, lots of pretty flowers. All hums, happy hours for you and me. All the world is sweet once again. Heaven's at my feet once again. All hum, feeling like a feather. All hum, we're together. And so all hum. Jean-François Verdier, est-ce que ça veut dire qu'à cette époque, les compositeurs américains sont à peu près à tout finalement, prêts à aller explorer d'autres univers?
Oui, mais c'est tout le pays qu'il était en fait à l'époque, visiblement. Alors, il y avait évidemment, il ne faut pas idéaliser les choses en ce qui concerne la société américaine de cette époque-là. Par contre, les artistes ont pris le bon côté des choses dans ce cas-là, en trouvant plutôt l'énergie qu'il y avait, les moyens nouveaux qui étaient à disposition, les musiques qui se mélangeaient et aussi l'esprit de création qui a pu avoir lieu. C'était exactement la même chose avec Leonard Bernstein juste après. C'est sa musique au départ fait et son ascension, son arrivée fait exactement écho à ça. C'était tout un moment où en fait l'Europe était un peu considérée comme un vieux continent et l'Amérique était le nouveau monde, c'est tout simplement. Donc c'était un endroit où on allait évidemment pas faire des choses aussi académique que ce qu'on faisait en Europe très bien. Ils ont donc naturellement cherché à avoir une voix particulière américaine. Il faut pas oublier que dès le siècle précédent, quand Dvorak a été invité aux États-Unis, la demande principale qui lui avait été faite, c'est de créer pour l'Amérique une nouvelle identité musicale, c'est-à-dire de créer les bases d'une musique américaine. Donc c'était déjà l'idée que ça venait d'Europe, mais qu'il fallait créer quelque chose de différent. Thank you.
Jean-François Verdier, pour cet album, encore une fois, vous avez enregistré à la Cité des Arts de Besançon. C'est un confort ou c'est une habitude? J'ai l'impression que les musiciens classiques ne vont plus du tout en studio.
Il faut voir ce qu'on appelle studio, c'est-à-dire que la Cité des Arts, on l'a transformée en studio. C'est une salle qui nous sert de salle de répétition, donc c'est pour ça qu'on la connaît bien et qu'on sait aussi comment se l'approprier, ce qui est un gros avantage. On a aussi la possibilité justement d'installer complètement un studio à cet endroit-là. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de différence avec les studios d'époque, mais les grands studios pour accueillir des grands orchestres, il n'y en a quand même déjà pas beaucoup. On n'en a pas dans notre région. Voilà, tout simplement aussi, on tient à enregistrer ici. Après, ce n'est pas une exclusivité qu'on a ici. Imaginons que, par exemple, un jour, on nous propose d'aller où on ait la possibilité d'enregistrer à l'auditorium de Dijon. Des musiques qu'on serait extrêmement heureux de pouvoir faire là-bas, par exemple. Mais voilà, un jour, nous irons peut-être ailleurs enregistrer autre chose. Ça correspond aussi à l'acoustique.
On posera éventuellement la question à Antonella Zedda qui... Elle vient de prendre la direction depuis le mois d'octobre à Dijon. Tiens, en attendant d'aller à Dijon, est-ce que votre rêve, ce serait, vous, d'aller jouer cette musique un jour aux États-Unis?
Alors, c'est une question complexe. Ce sera la dernière. Effectivement, ensuite, est-ce que les Américains auraient vraiment même envie d'entendre cette musique-là purement américaine? Joué par des Européens, la question se pose, est-ce que ça les intéresserait ou est-ce qu'ils nous demanderaient plutôt de jouer des musiques que nous connaissons mieux, pour lesquelles on soit plus proche? Après, les jouer aux États-Unis ou ailleurs, l'important, je pense que c'est dans le cadre de ce disque-là, c'est que ça soit existant, c'est-à-dire que pour l'instant, ils n'avaient pas d'enregistrement. Donc, personne ne pouvait les entendre. Là, maintenant, grâce à ce disque-là, en fait, c'est à disposition de tout le monde, de tout le monde partout. Donc, quelque part, que nous-mêmes, physiquement, nous allions aux États-Unis ou pas, quelque part, c'est un peu de l'anecdote. L'important, c'est que ces œuvres réexistent et soient écoutables par tout le monde. Et ça, c'est notre travail.
American Dream, l'orchestre Victor Hugo, un disque Alpha Classics.